Bonjour tout le monde, merci d'être là pour cette table ronde sur polar et féminisme et de ne pas être au foot. Voilà, fallait que je le dise. J'en ai trop gros là, fallait que je le dise.
Ce qui est déjà un engagement en soi,
votre part.
Bravo,
ça, exactement.
Tu as été gentil, ma chérie. Voilà, on essaye de tenir compte de tout. Bon, on s'est fait rattraper par les élections, on s'est fait rattraper par. Le foot, par voilà. Bon, c'est pas grave, on est là, donc voilà. Donc on a trois auteurs avec nous, trois vraiment super auteurs. Benoît Philippon. Lui, voilà, c'était le seul, hein, vous avez remarqué.
C'est
le moins cancre des trois, du coup. Jean-Christophe Tixier. Et Louise May. voilà, donc l'intitulé de cette table ronde, c'est Polar et féminisme, et c'est vrai qu'on a trois auteurs qui vraiment ont une parole très engagée auprès des femmes, et ça fait du bien parce que c'est pas. On vit dans une société où c'est pas toujours. Qui n'a pas forcément toujours évolué dans le bon sens. Voilà, donc moi je vais commencer. Avec Jean-Christophe Tixier, voilà, et son livre « Effacer les hommes », qui est un livre magnifique que je vous conseille de lire. Donc, pour présenter Jean-Christophe en deux mots, donc, il a été enseignant pendant 20 ans, à peu près, hein, en économie plutôt, et puis formateur pour adultes. Il est également formateur pour des jeunes en grande difficulté. Je dis les choses qui me semblent importantes parce que voilà, bosser avec des jeunes en grande difficulté, ça veut dire une certaine sensibilité, un certain souci de l'autre qu'on sent beaucoup chez lui. Et maintenant, il passe son temps entre l'écriture pour la jeunesse, beaucoup, les petits, les jeunes ados, les grands ados, et maintenant les adultes pour notre plus grand bonheur. Il est également l'organisateur d'un salon du polar intitulé « Un aller-retour dans le noir » à Pau. Si vous avez l'occasion d'y aller, c'est super. Qui se déroule le premier week-end d'octobre. Et également directeur d'une collection de novellas. C'est fini, voilà. Bon. Il s'est quand même intéressé à l'anticipation sociale à un moment donné. Voilà. Et ses thèmes de prédilection sont la différence, l'exclusion, les voyages et l'humour. Et on retrouve beaucoup de ces thèmes-là dans son livre. Il a eu beaucoup de prix, parce que vraiment des livres de grande qualité. Le premier roman adulte, c'était Les Mal-aimés, qui est paru en 2019 chez Albin Michel. En 2021, donc c'était un livre qui parlait d'un bagne pour enfants qui était à Vallauquès, pas très loin d'ici. Qui a effectivement existé. Et pardon ? Ah, d'accord. Donc, vous connaissez un peu l'histoire. Voilà, c'est une histoire terrible. Il y a eu une soixantaine de bagnes pour enfants en France.
Un peu plus de 70.
Un peu plus de 70. Voilà, finalement, c'est une histoire qui est très peu connue. Et la fiction, ça sert aussi à ça, parce qu'il y aura dans beaucoup de tables rondes, voilà, on apprend des choses en même temps qu'on suit des personnages. C'est ça qui fait la richesse aussi du polar et du roman noir en particulier. Et voilà, c'est une histoire bouleversante sur des choses qui sont vraiment passées. Donc, il a enquêté pendant des mois. Et je vous conseille de le lire. Vous serez vraiment choqués, quoi.
Elle vous vend du rêve. Ouais, chouette.
Non, mais vraiment, lisez-le, c'est horrible.
Vous allez vous... Ouais. Enfin bon, on va pas le dire.
Non. Désolée, mais choquée de ce qu'on découvre, de ce qu'on est capable de faire. Voilà, c'était ça.
C'est pas un roman feel good, vous l'aurez compris.
Ouais.
Non, mais pour les crises de polar, c'est normal.
L'année 2021 a été très faste pour Jean-Christophe Tixier parce qu'elle est parue 10 minutes et 13 secondes chez Syros.
Ouais,
voilà, pour les petits. Ensuite, en mars, Effacer les hommes. En avril, La nuit des requins chez Rajot. Mmh. Et puis en mai, Guilty, l'affaire Diego Abrio qui est pour les grands adultes.
Grands ados, pardon.
C'est la fatigue, je suis désolée. Et Guilty, alors du coup, on est un peu tous des grands ados quand même quelque part. Et moi, ça me donne très envie de le lire. Je vous résume, c'est une traque humaine en fait, une chasse à l'homme, un thriller d'anticipation sur les dérives des réseaux sociaux, ceux qui étaient là à la table ronde avec les avocats, comprendront un petit peu ce qui se passe par rapport à l'emprise des réseaux sociaux sur la justice et sur le monde dans lequel on vit. Voilà, ça rejoint la thématique du poids de l'opinion publique. Voilà, après, je ne veux pas vous en dire plus parce que je ne veux pas dévoiler l'histoire, mais ça a l'air très choquant.
Mais chacun sa spécialité. Je suis vraiment choquée.
Non, je blague, là, je blague. Voilà, donc... Ensuite, il anime des ateliers d'écriture aussi. Alors, c'est dommage, il est trop loin, sinon on l'aurait invité à Millau, mais voilà, ça fait un peu loin. Donc, on en arrive aux mal-aimés. Donc, les mal-aimés, c'est également une histoire d'enfermement, mais plus symbolique par rapport à... Pardon ? Effacer les hommes. Oui, par rapport à effacer les hommes par rapport aux mal-aimés. Ouais. Je vais essayer de tenir le coup, hein. Je suis désolée. Donc on va résumer l'histoire, ça se passe en Aveyron, voilà, en 1965, c'est un huis clos dans une auberge au-dessus d'un lac qui est en train de se vider pour se faire vidanger. Et donc au fur et à mesure que le niveau de l'eau baisse, en fait il y a l'histoire qui ressurgit, donc au niveau symbolique c'est très fort, et puis au niveau de ce qui va se vivre pendant tout le temps du vidage du lac et de ce qui va émerger. C'est très fort également, donc on sent dès le début qu'il y a un secret, c'est un huis clos de trois femmes en fait, et avec des non-dits tragiques qui rongent chacune de ces personnes. Alors il y a Victoire, donc les trois prénoms de ces trois femmes sont très significatifs aussi. On a Victoire, qui fut ouvrière en 1936, qui a essayé de fuir son destin d'ouvrière en épousant un monsieur beaucoup plus vieux qu'elle, et qui va lui acheter une auberge. Elle va croire que sa liberté, son destin de femme va s'accomplir de cette manière-là. Ensuite, on a Ève, qui est sa nièce. Elle qui rêve de sortir de ce village, qui a vraiment envie d'autre chose, qui veut se libérer et qui va, elle aussi, rencontrer un homme qui va croire que c'est par lui qu'elle va réussir à accomplir son destin de femme. Et une troisième femme, sœur Marie Clément Maurice, qui est la belle-fille de Victoire, qui est donc religieuse, et donc elle a choisi une autre voie. Et entre ces trois femmes, il y a toute une histoire qui va petit à petit émerger au cours de la lecture, avec également la présence du frère d'Ève qui est là, puisque Ève et son frère ont été recueillis par Victoire à un moment donné, puisque leur maman s'était suicidée, elle avait été tondue après la guerre. Voilà. Voilà, donc ça c'est...
Ça c'est en jeunesse. Hein.
Ah non, jeunesse, c'est dire.
Première lecture.
Voilà, donc des femmes très fortes, très... ce que j'ai beaucoup aimé, moi, dans ce livre, c'est le contexte social, tout le temps, avec l'année 1936, le Front populaire, donc tout ce que ça va éveiller comme espoir, comme vouloir autre chose. Il y a une description du travail à l'usine, de tout ce que le Front populaire a pu porter comme espoir d'une autre vie. C'est très fort. Et après, 1965, c'est des lois... La première fois qu'une femme a le droit d'ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de son mari, etc. Donc c'est deux dates très fortes au niveau social. Donc une description des personnages très psychologique, très fine, dans un contexte social et politique également très très bien décrit. Et voilà. Après, la mort qui est omniprésente, la vie et la mort qui sont omniprésentes finalement toutes les deux. Comment on va trouver un sens à notre vie et comment la mort va pouvoir permettre à la vie de se libérer et d'exister. Voilà, donc j'ai résumé du mieux que j'ai pu avec... Donc je vais donner la parole à Jean-Christophe.
D'accord.
Donc Jean-Christophe, finalement, effacer les hommes, c'est ça qui permettrait la vie, la vraie vie pour ces femmes.
Oula. oui, voilà, alors là, c'est bon. Vous n'êtes pas couché, alors, hein, si on va là. Avant cela, enfin, moi, un des thèmes moi, qui me plaît aborder, c'est le thème de l'émancipation, en fait, quelle soit. Moi, quand j'étais môme, quand j'entendais une annonce télé disant, tiens, ce soir, émission sur « Ils ont changé leur vie », j'étais le premier devant la télé, même si l'émission était naze. Mais voilà, ce fantasme de changer sa vie, de s'arracher à ce qu'on est, de s'arracher à cette histoire familiale, de s'arracher à un lieu, à un milieu social, à une terre. Donc, l'émancipation, c'est tout ça... Elle est d'autant plus compliquée quand on est une femme et quand on est à une époque extrêmement paternaliste où à l'époque, en 65, on voit la femme comme étant soit la potiche, soit la femme soumise, soit la vamp, c'est assez réducteur. Et moi, ce qui m'intéressait dans cette décennie, c'est que 65, on est dans une décennie de bascule. On est encore sur le fil. On est encore dans une France qui est extrêmement corsetée. Et en même temps, on voit apparaître les Rolling Stones, on voit apparaître Barbarella, que j'évoque beaucoup et qui est un fil conducteur. C'est là où on introduit le français dans les offices religieux. C'est là où il y a, et tu l'as rappelé tout à l'heure, en 65, la loi autorisant les femmes à ouvrir un compte bancaire et à signer un contrat de travail sans l'autorisation de leur mari. Voilà. Et donc, il y a tous les ferments de 68 qui sont là. Et l'idée était, voilà, comment ces femmes-là, et c'est pour ça que je voulais trois destins de femmes, parce que quand une femme, surtout dans une zone avec un terroir fort, c'est comment on fait pour se sortir et prendre sa vie en main.
Ça, c'est aussi une thématique qu'il y avait dans ton premier livre, c'est un petit peu l'emprise de la terre sur les gens. Elle signifie pour eux la vie et en même temps une espèce de gang, quoi. Ils sont prisonniers de cette terre pour le meilleur et pour le pire, mais souvent pour le pire, ils n'arrivent pas à s'en détacher. C'est un peu un piège. Enfin, moi, je l'ai un peu lu comme ça.
C'est tous les boulets qu'on a au pied, c'est tout ce qui nous tient quelque part. C'est l'emprise d'un lieu, c'est l'emprise d'une histoire familiale, c'est l'emprise d'une éducation, d'un milieu social. Donc il y a la terre, bien sûr, qui a une emprise. Il suffit de regarder comment se comportent des Français à l'étranger ou quand on ne s'adresserait pas la parole dans un immeuble ou en se croisant dans la rue. Puis le fait qu'on soit à l'étranger, loin, ah, t'es Français, et puis tout le monde, puis on se tape sur l'épaule et puis ça fonctionne. Donc là, je rajoutais cette couche qui était arriver à se détacher d'un milieu social et puis d'une position de la femme avec ce questionnement, est-ce qu'on peut s'en sortir sans les hommes ? D'où le titre « Effacer les hommes ». Que l'on a accepté chez Albin Michel parce que, m'ont-ils dit, parce que j'étais un homme à l'avoir prononcé. Et que si ça avait été une femme, ils ne l'auraient pas pris, ils auraient trouvé ça trop violent.
Ah bon ?
Ouais.
Voilà, j'ai le droit. Pourquoi tu n'es pas dans la même maison d'édition ?
Alors, effectivement, il y a des descriptions du rapport entre les hommes et les femmes qui sont. Enfin, de la domination de l'homme sur la femme qui sont vraiment très, très belles et très, très fortes, qui vont loin. Tout comme les descriptions du travail à l'usine, comment ça tue le Ça a servi les gens d'une manière très violente, quoi, comme leur rapport aux hommes, c'est pareil, c'est radical, je trouve. Voilà, dans ce rapport homme-femme, est-ce que tu peux...
C'est trois personnages différents. Dans le cas de Victoire, elle vit effectivement à l'usine, elle est de ses combats de 36, elle bénéficie de ses premiers congés payés, et là, elle goûte à autre chose. Elle goûte à la liberté, elle goûte à la nature, elle goûte à tout ça. Et à un moment donné, elle s'est dit, je ne veux pas y retourner. Comment je fais pour ne pas y retourner et repartir là-bas dans cet enfer et cette usine qui va complètement me digérer. Et donc, elle se pose la question. Et la seule issue qu'elle trouve à ce moment-là, c'est de... une femme ne peut pas partir seule. Enfin, en tout cas, elle ne trouve pas les ressorts pour partir seule. Donc, elle fait le choix de se marier. Donc, elle est plus dans une fuite de tout cela. Tu parlais tout à l'heure de la sœur Marie-Clément Maurice qui, quand on est en zone rurale, la terre, elle est possédée par les hommes, elle est façonnée par les hommes. Et la femme ne trouve pas sa place, à moins d'être au service des hommes. Et le seul moyen qu'elle a, et la seule fuite qu'elle
trouve de possible, c'est de rentrer dans les ordres. Et Ève, c'est différent. Ève, elle a 17 ans, pardon, 20 ans, elle n'est pas encore majeure dans les années 60. Il y a le monde qui rentre dans cette auberge par l'intermédiaire de la TSF. Donc elle entend les Rolling Stones, elle entend les nouvelles du monde. Elle tombe un jour par hasard sur une revue de Barbarella qui a été laissée par un client. Et puis elle a ce modèle de femme qui représente pour elle la liberté totale et ce qu'elle rêve d'être comme femme. Cette femme qui prend en main son destin, qui elle-même, qui est maître de son corps, maître de son esprit. Et pour elle, c'est le modèle de la modernité. Donc elle va se réfugier là-dessus. Elle a en elle ce modèle-là précédent et donc elle se dit que si elle veut fuir de là, ce sera forcément par l'intermédiaire d'un homme. Et puis elle se rend très vite compte qu'il y a peut-être un autre moyen de fuir et un autre moyen de prendre sa vie en main.
Leur certitude d'être supérieure, mélange de suffisance contenue et de condescendance un brin paternel qui maintient les femmes dans un état de dépendance servile. C'est fort, je trouve. Et ça n'a pas tellement changé.
Ah mais on est absolument d'accord. Moi, je passe mon temps dans les rencontres scolaires. Puis je rencontre beaucoup de collégiens, beaucoup de lycéens. On va dire qu'il y a encore du boulot. Et que les droits des femmes sont récents, extrêmement récents. Parce que même quand on discute avec les adultes, là, quand on rappelle que c'est 65 la loi quand même qui autorise une femme à ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de son mari, que les écarts de salaire aujourd'hui sont encore extrêmement conséquents. À activité équivalente, qui a du boulot et qu'effectivement c'est une affaire de tous, c'est pas une affaire des filles dans les classes, et classes ça aussi c'est important à rattraper, hein, que les garçons doivent participer aussi à cette lutte et que c'est une lutte de tout le monde. Donc oui, encore plein de choses à faire, bien sûr.
Ça fait plaisir qu'il y ait deux écrivains d'ailleurs à cette table sur le féminisme. Voilà, je sais pas si tu veux ajouter quelque chose ou après. Ouais. J'aime beaucoup la fin, en tout cas aussi, de ton livre, qui est une ouverture, une belle respiration.
On
ne
va pas la donner. Hein
non. Non, non.
L'ouverture, on n'est pas sur quoi, hein. C'est peut-être l'ouverture du tombeau, hein, d'ailleurs, je ne sais pas.
Alors, on va passer à Louise May, qu'on est ravis d'accueillir et qui est notre lauréate du prix Robin Cook. Donc, voilà. Félicitations à elle, à l'unanimité en plus, je le disais hier soir mais tu n'étais pas là, que ça a fait l'unanimité et dans le jury et dans le prix des lecteurs qui était dans les médiathèques et les bibliothèques, voilà. Et donc c'était, alors je vais quand même montrer le roman, ce roman qui s'appelle La deuxième femme et qui est un roman, je veux dire, à mettre dans toutes les mains absolument, même si c'est un roman évidemment difficile, tragique. Mais nécessaire, un mal nécessaire. Mais il y a des mots qui sont nécessaires parfois, dans les deux sens. Et c'est un livre qui fait mal et c'est un livre qui oblige à ne pas c'est pas ne pas oublier, mais qui, voilà, c'est pareil, on est dans le quotidien et dans un quotidien qui, sur lequel on ferme les yeux parfois. Et cette Sandrine, alors on va parler un petit peu du livre, c'est l'histoire de Sandrine. Et Sandrine est une femme qui s'est oubliée, et au-delà de s'oublier, qui n'existe que dans ses retranchements. Elle s'est construit un monde parce qu'on l'a retranchée dans ce monde-là, parce qu'elle se trouve grosse, moche, laide. Elle a souffert dans son enfance du regard de son père et des coups de son père et de la négation d'être une fille et de ne pas être dans les canons de beauté des diktats voilà, qu'on peut attendre. Et puis, elle est devenue presque transparente dans son travail. Elle s'est rythmée une vie, en fait, d'invisible, d'une fille invisible, douloureuse. Et c'est une douleur, cette Sandrine. Et un jour, quand le livre commence, elle est en train de regarder la télé et elle voit une battue pour retrouver une femme qui a disparu. Et là, elle va tomber vraiment hypnotisée sous le charme de l'homme qui pleure, du mari de cette femme disparue avec son petit garçon. Et donc, elle va décider d'aller à la battue suivante pour le rencontrer. Mais juste pour aller donner un coup de main, parce que voilà, elle a besoin de rencontrer ces personnes. Et là, Il va se passer quelque chose d'inattendu pour elle, c'est que cet homme qui pleure, cet homme qui est malheureux, qui a perdu sa femme, la regarde. Et elle a l'impression qu'il la regarde comme personne ne l'a jamais regardée. Et ce regard, c'est vraiment tout le point de départ du livre, c'est ce regard qui va la précipiter dans l'ignoble. Et c'est tellement frappant de simplicité, de banalité, de tomber sous la coupe de quelqu'un qui va vous vouloir du mal, qui va vouloir vous détruire et vous anéantir complètement, juste dans un regard. C'est saisissant et c'est raconté avec une virtuosité vraiment... voilà. Et on est embarqué dans le livre tout de suite. Je veux pas révéler toute l'histoire du livre, mais on est embarqué tout de suite parce que voilà, ce regard, il va tout faire. Et puis du coup, elle va rentrer dans sa vie et ça va être terrible, absolument terrible. Elle va être cette deuxième femme. La première femme va être retrouvée. Je ne dévoile pas grand-chose en disant ça parce que c'est au tout début du livre. Et il va y avoir cette... alors, ça ne va pas être un ménage à trois, mais elle va avoir très peur qu'on lui prenne sa place de deuxième femme puisqu'elle a acquis un statut, elle a été admise par cet homme qui l'a regardée et qui va faire d'elle une moins que rien. Mais elle ne veut pas perdre ça parce qu'elle a l'impression d'exister pour la première fois. Et tout ça, ça va se loger dans un quotidien terrible que les pervers narcissiques savent absolument bien manipuler et mettre en place dans les moindres détails du quotidien. Par exemple, il y a un passage, moi, qui est au tout début, qui est sur un habit. Alors, elle se trouve moche, grosse, elle aime pas s'habiller. Elle a passé des années à se construire son uniforme, sa tenue qui la camoufle, qui l'habille, qui lui permet d'aller travailler, d'exister dans un modèle qu'elle s'est forgé elle-même. Et puis, sur un marché, un jour, il lui achète un chemisier. Et elle sait très bien que ce chemisier ne va pas lui aller. Et c'est une toute petite chose, mais c'est ça au quotidien. Et donc... elle lui dit « Les vêtements sont des ennemis qu'il faut maintenir à distance, avec précaution. Elle a pleuré, elle a mangé, elle a vomi, elle a bu d'essayer des habits qui n'allaient pas. Mais lui insiste depuis hier pour le chemisier, comme il a insisté tout l'été pour qu'elle porte autre chose. Autre chose que son uniforme élaboré au fil des ans. Il a répété que ce serait joli jusqu'à ce qu'elle l'essaie. Elle s'est vue avec et elle s'est trouvée grosse, laide, grosse vache. C'était l'heure du café. » Mais la honte d'être là l'a mordue jusqu'au soir. Et pourtant, il dit que ça lui va et qu'il n'aime pas quand les affaires traînent n'importe où. Alors, elle va le laver et le ranger et elle verra si elle le met. Et voilà. Et petit à petit, elle va être enfermée. Elle va se retrouver à nouveau piégée. Et tous les jours, ils vont l'enfermer un peu plus. Ce sera pour la nourriture, ce sera pour le petit garçon, son petit garçon à lui, de la première femme, dont elle va devoir s'occuper aussi. Ça va être, petit à petit, il va l'enfermer aussi. À quelle heure elle va au travail? Comment elle va au travail? Est-ce qu'elle a vraiment besoin d'y aller avec sa voiture? Est-ce qu'elle a besoin d'avoir un téléphone? Il va lui mettre... il va pister son téléphone. Elle finira par presque être dépendante de lui pour sa carte bleue, etc. En fait, il va lui prendre les choses au fur et à mesure. Et elle va l'accepter parce qu'elle a l'impression... qu'il l'aime, et que l'amour, c'est ça aussi. C'est être complètement soumise à cet homme. Et cette soumission, elle est terrible. Elle est terrible et tellement bien racontée. Alors, peut-être...
Merci, c'est un résumé extrêmement complet.
Je suis qu'au début du livre.
Ah oui, non, alors effectivement, alors pour donner un petit peu de contexte sur cette histoire-là, en fait, moi, j'écris beaucoup sur les violences systémiques faites aux femmes et plus largement aux personnes issues de la communauté LGBTQIA. J'écris sur qu'est-ce qui se passe quand on est un peu différent et qu'est-ce qui se passe quand la violence vous trouve plus facilement et qu'est-ce qui se passe quand cette violence-là n'est par ailleurs pas prise en compte et pas forcément bien traitée. Par la police, par la justice. Et en fait, je me suis... un reportage photo en live. Et en fait, je me suis beaucoup documentée pour faire ces premiers livres-là qui parlent d'une violence qu'on reconnaît et que tout le monde va s'accorder à trouver comme étant répréhensible. Personne ne va vous dire de but en blanc, oui, le viol, c'est bien, oui, c'est formidable de violenter les hommes, les homosexuels. Personne ne va vous dire ça. Mais il y a toute une série de violences qui n'est pas forcément reconnue et qu'on laisse passer dans une espèce de... Donc, une expression avec laquelle moi, j'ai beaucoup de mal, parce que dans la vraie vie, ça n'existe pas. Il y a ce qui est bien... Ce qui est acceptable et ce qui est inacceptable d'humain à humain. Et puis, il y a la loi aussi. Une espèce de zone grise comme ça. Et en fait, au fur et à mesure que je me documentais sur... Ce qui ressemblait à ce qu'on appelle des faits divers et qui va attirer l'attention des gens. Je voyais aussi dans toute la presse que je lisais et dans tous les faits divers que je consommais, une espèce de violence qui ne dit pas son nom, qui est la violence avant la violence. Et typiquement, les femmes qui sont des femmes battues par leur conjoint ou ex-conjoint, c'est des femmes dont on ne parle pas et dont la violence est invisible jusqu'à ce que ce soit trop tard. En fait, les femmes qui sont victimes de conjoints et ex-conjoints abusifs, personne ne les écoute jusqu'à ce qu'elles soient mortes. C'est pas tout à fait exact parce qu'il y a quand même des policiers impliqués, il y a quand même certaines brigades qui essayent de se spécialiser là-dedans, il y a quand même tout un réseau d'aide, il y a des assistantes sociales. Enfin, je veux dire, les femmes sont dans l'absolu pas laissées seules, mais dans la véracité des faits, des histoires de violence conjugale, on en entend tout le temps parler, et on en entend tout le temps parler quand c'est très tard, quand on arrive à des cas donc d'assassinat, ou quand les femmes se protègent et donc tuent l'homme qui les avait harcelés, torturés, agressés. Et en fait, justement, cette violence envers la violence, c'est tout ce que j'ai emmagasiné d'informations terribles. Hein. De nouveau, on est vraiment sur du feel good, qui est parti dans la deuxième femme. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à écrire sur les violences systémiques, on a commencé à m'envoyer des faits divers. Le matin, j'arrive, j'ai des mails. Oh, j'ai vu cette histoire horrible, ça m'a fait penser à toi, super. Si vous voulez vous lancer dans le roman, écrivez plutôt sur les chiots, comme ça on vous enverra des vidéos de chiots. Ce sera vraiment, pour le lundi matin, je vous assure, vraiment... Non, des petits chiots gentils. Pour le lundi matin, c'est mieux en tout cas. Et c'est vrai que du coup, j'avais presque besoin de... L'expression est extrêmement élégante, mais de purger mon organisme de tout ça. C'est-à-dire de toutes ces violences qui ne sont pas reconnues, où tous les gens disent « Oui, mais enfin, elle avait qu'à partir. Oui, mais enfin, voilà. Oui, mais enfin, s'ils vivent ensemble, ça va. Il a envie, quoi. » Non, ça s'appelle le viol conjugal. Donc, il y avait tout un ensemble comme ça d'informations et de violence ordinaire, en fait, que j'avais emmagasiné. Et la deuxième femme, c'est ça, c'est écrire sur tout ce que j'ai réussi à comprendre de ces phénomènes d'emprise-là, à quel point les femmes sont aussi très, très éduquées, pas nécessairement par leurs parents, une société entière éduque les enfants, mais à sortir de leur zone de confort. Le fait de vous dire « Non, mais s'il y a un type qui t'emmerde dans la rue, tu peux lui sourire, ça va, s'il insiste pour que tu lui fasses la visa avant de te laisser partir, fais-le. » Non, c'est pas vrai, personne ne vous oblige à embrasser un inconnu, bourré ou pas bourré. Enfin, il y a plein de mini-violences comme ça qui sont complètement poussées de côté. Et c'est vrai qu'en général, dans le polar, dans la vie, dans les conversations et dans ce qu'on lit dans la presse, il y a cette espèce de... Il y a la vraie violence à laquelle on fait attention. Et puis, il y a toutes ces petites choses qui font souffrir les femmes au quotidien. Et qui sont largement invisibilisées. Et la deuxième femme, c'est ça, c'est se poser la question de à quel moment en fait ces signaux de panique et d'alerte que vous envoie votre cerveau sont des vrais signaux à prendre en compte. Et je suis absolument ravie d'avoir eu le prix, alors pour une raison un petit peu mesquine. Moi, ma spécialité, c'est d'être en deuxième position sur les prix. Donc c'est très bien parce que du coup on parle de mon livre, mais j'ai pas besoin de faire des photos, j'ai pas de trucs officiels, j'ai pas besoin de faire des danses régionales. C'est vrai que c'est très chouette d'en gagner un. Et par ailleurs, ça me permet de me souvenir que ça a eu aussi le prix des lycéens à Vienne.
Je voulais le dire aussi.
Et ça m'avait rendue super contente parce qu'en fait, justement, j'ai appris récemment, parce que ce qui est bien, c'est pareil, quand on écrit sur les violences faites aux femmes, on a des nouvelles tous les jours, des fois des bonnes, souvent des mauvaises, qu'en fait, il y avait une violence grandissante dans les couples très jeunes, dont des jeunes femmes, des jeunes filles qui sont au collège, au lycée, et qu'en fait elles étaient très imperméables aux campagnes de sensibilisation, alors dont on peut critiquer la qualité, mais qui existent cependant, parce qu'en fait pour elles le terme de femme battue ça veut rien dire. Elles sont des filles, elles sont pas dans cette espèce de schéma de personnes mariées,
de catégories en fait,
de catégories, et donc ça leur parle pas. Et du coup le fait que ce livre soit lu, le fait que ce soit lu par des personnes jeunes et puis par des femmes de tous les âges, de tous les milieux, de tout, ça me fait énormément plaisir. C'est très très gratifiant parce que je pense qu'on a toutes et tous des moments comme ça de où on sent des signaux d'alerte et où on se dit là c'est pas bien, là je suis pas à l'aise, là il faut que je parte, là il faudrait que je bouge, et ça peut être n'importe quoi. Et je pense à titre personnel que la littérature c'est quelque chose qui peut Alors peut-être que guider, c'est un terme un peu grandiloquent, mais qui peut aussi donner des clés pour analyser sa vie, son environnement. Et s'il y a des gens qui lisent ce livre et qui, derrière, se disent « cette situation ne me convient pas, peut-être que ce qu'il faudrait, c'est que j'aille voir ailleurs, que je prenne de l'air, que j'en parle, que j'explique, que j'en parle à d'autres gens. Et est-ce que ce que je ressens, c'est normal ? Est-ce que c'est bien qu'on me traite comme ça ?» Il y a plein de choses. Et effectivement, dans le roman, il y a beaucoup de toutes petites choses. Ce livre-là, j'ai eu des retours très différents de lecteurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont me dire « Ah, je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas à partir de tel moment. » Et moi, je l'ai fait lire à une jeune femme très, très féministe et très, très sensible qui est arrivée à la page 2 et qui m'a dit « Ça, là, c'est un truc de connard. » Mais lui, il faut qu'elle s'en aille.
Tout à fait. Moi, l'extrait que j'ai lu, c'est au début. Et dès le début, moi, je l'ai ressenti comme ça. Dès le début, on est dans... Ça y est, on sait que ça va être terrible, quoi. Et on sait qu'elle va souffrir.
Après, elle souffre. Après, c'est on en dit beaucoup, donc on va vous faire des spoiler alertes. Mais l'idée, c'est aussi de se poser la question de cet homme-là, il est ce qu'il est. Moi, par ailleurs, il m'intéresse pas excessivement en termes de personnages. Je lis énormément de. On a beaucoup en fait dans les livres, les séries. Les films des gens qui font énormément de mal aux femmes, et puis à chaque fois on a plein de détails sur comment, pourquoi, c'est quoi leur raison, c'est quoi leur enfant, c'est quoi leur... Et des fois ça donne des trucs très très bien, moi quand je consomme énormément de pop culture, et des fois le résultat je trouve que ça fait des très bons films, des très bons livres, mais moi en fait j'avais pas envie de passer du temps avec cet homme là il m'intéresse pas excessivement, quoi. Moi j'ai envie de passer du temps avec mon héroïne, j'ai envie de passer du temps avec Sandrine, et tout a été conçu comme ça, c'est-à-dire que même la narration est faite pour qu'on l'accompagne vraiment ouais. Tout le temps, qu'on suive son flot de pensée et puis qu'on soit dans son point de vue. Parce que l'idée, c'est aussi de réaliser qu'on a tous des manières, toutes et toutes des manières différentes de vivre les choses, et que ce qui va vous paraître inadmissible pour vous de l'extérieur en étant soit célibataire, soit dans un couple très ouvert, soit bien dans votre vie, c'est pas forcément la manière dont une personne qui a été éduquée avec finalement assez peu d'amour et qui a été comme ça habitué en permanence à ce que ce soit normal, qu'on lui parle pas très bien, qu'on la complimente pas trop, qu'elle soit jamais assez bien. Je pense que ça crée des cicatrices très très profondes qui font que ça place les gens derrière dans des situations dangereuses, parce qu'ils vont être beaucoup plus habitués à ce qu'on les traite mal, en fait. Et cette maltraitance, ça peut être des toutes petites choses, et puis ça peut être des choses reconnues comme étant beaucoup plus graves.
Ouais. Et je voulais revenir justement sur la forme du livre, qui est aussi très intéressante. Et l'écriture est très intéressante, parce que justement, c'est un récit qui est fait c'est à la troisième personne, c'est elle. On est avec elle, on est dans sa tête, on est dans son ressenti et dans sa chair parfois. Et voilà, dès le début, par exemple, il y a le leitmotiv qu'elle se dit « grosse, moche, laide, grosse vache ». Et elle se le répète, parce que c'est comme un leitmotiv, un mantra. Elle sait que voilà, ça, c'est dans sa tête, et elle sait ce que c'est ce que... Les autres pensent d'elle. Et puis, il y a aussi... c'est un livre où il n'y a pas de dialogue. C'est-à-dire que... et ça, j'ai trouvé ça... alors, je sais qu'il y a des gens... ça les a gênés dans la lecture.
Il y a des gens qui n'étaient pas contents.
Et moi, j'étais très contente parce que je me suis dit, mais pour une fois, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que cette forme d'écriture, elle donnait encore plus de poids. Et quand on en a parlé dans le jury, justement, il y en a ça les avait pas choqués. Enfin, c'est pas que ça m'a choqué. J'ai trouvé ça très intéressant dans cette narration parce que c'est comme, en plus, si on leur avait confisquer la parole. Et ça, c'est très très fort, parce que le personnage, il parle, quand l'homme qui pleure, il parle, les dialogues sont intégrés dans le récit. Il n'y a pas d'ouverture de dialogue écrit. Et c'est intéressant, parce que moi, j'ai l'impression que c'était aussi comme si vous aviez voulu quelque part lui retirer une part de son expression. C'est-à-dire que tout ce qu'il disait, ça passait aussi par Sandrine. En partie, en tout cas.
Alors moi, en fait, honnêtement, ça m'est venu comme ça, et j'ai pas forcément analysé, mais si ça a pour corollaire de lui retirer son droit de parole, ça me va très bien.
Mais complètement. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça, et ça a été même une évidence quand j'ai lu le livre, et je me disais, mais c'est super fort, parce que mine de rien, elle enlève les dialogues, et dans ce qu'il dit, c'est comme si elle l'avait privé de son expression quelque part, et que on entendait ce qu'il disait, mais c'était pas lui, on lui enlevait quelque chose à lui aussi, et je trouvais que c'était intéressant.
Mais tout passe par elle, parce que ce qui m'intéresse, c'est qu'on soit en permanence avec l'héroïne. Bon, à ce stade, je pense que vous aurez tous compris que ça parle de violence conjugale. L'idée, c'est quand même d'arriver à accompagner cette femme suffisamment longtemps pour que derrière, cette espèce de réflexe qu'on a toutes et tous, moi je l'ai pensé aussi, hein, c'est pas, j'ai pas une espèce de posture surplombante, je suis féministe parfaite, j'ai la réponse à tout, et non, moi je me pose plein de questions, j'ai plein de mauvais réflexes, j'essaye de me documenter, j'essaye de réfléchir, mais ce réflexe qu'on a toutes et toutes dans lisant des faits divers, qui sont tournés souvent en plus dans la presse, alors ça s'améliore un peu, mais qui reste parfois tourné d'une manière un peu faussement humoristique, si moi me mets très très mal à l'aise, c'est ivre, il la pousse du 8e étage, oui, enfin c'est pas une blague, c'est pas, ça commence par il est ivre, et puis en fait du coup elle est morte. C'est pas forcément matière à plaisanterie, mais l'idée c'est de se dire ce réflexe qu'on a, elle aurait dû partir ou non, mais moi un mec me met une claque, je m'en vais, hein. Enfin je veux dire, c'est pas très compliqué, je reste pas là à attendre qu'il me tue. Non, c'est pas vrai, ça se passe pas comme ça. Alors après, moi la notion de perversion narcissique, ça me met pas forcément à l'aise parce que disons que j'y crois moyen, je pense que c'est surtout une excuse pour les gens de se comporter extrêmement mal.
Oui, oui.
Mais ça a été très très popularisé récemment et c'est une clé d'analyse que je comprends complètement. Mais cette idée de se dire j'avais qu'à partir, non, ça se passe jamais comme ça. Il n'y a aucun couple qui se forme avec un premier rendez-vous où ils se font un sourire et commandent un verre et le mec lui fout deux claques. C'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça s'installe une relation toxique. Il y a effectivement énormément de d'aller-retour et puis une alternance de compliments et d'insultes. Enfin, l'idée, c'est que vraiment, à un moment donné, le cerveau se paralyse parce qu'il est en permanence entre je suis très bavarde, donc n'hésitez pas à m'interrompre, entre ça va, et puis ça va plus, et puis ça va, puis ça va plus. Et j'avais fait une intervention très, très intéressante avec une avocate spécialisée dans la défense, et beaucoup la défense des femmes ayant été maltraitées par leur conjoint, ex-conjoint. Il y a toute une phase comme ça, il y a une phase de lune de miel, puis il y a une phase de crise, et puis c'est une espèce de cycle comme ça, et au bout d'un moment, les paliers se raccourcissent de plus en plus. Et en fait, la phase de lune de miel où tout le monde se pardonne, où on dit qu'on est désolé, où on s'offre des fleurs, où ça va, parce que les violences conjugales, c'est pour une proportion écrasante des hommes qui font du mal à des femmes, au bout d'un moment, cette proportion de phase de lune de miel où tout se répare, où on y croit, où on sait que ça va changer, où on se dit que ça va changer, se réduit en fait. Et au bout d'un moment, on ne passe plus que d'une phase d'alerte à une phase de violence. Et donc, du coup, c'est des situations invivables où, quelque part, les personnes qui vivent ça derrière ont une espérance de vie extrêmement réduite. Elles ont des infarctus, elles déclenchent des cancers, parce qu'elles sont dans un état de survigilance et de pré-panique permanent. Et je ne veux pas vous en dire trop là-dessus parce que je n'ai pas les termes exacts et que c'était l'avocate qui avait beaucoup discuté de ça et que je ne veux pas vous dire des bêtises, mais vraiment, ça fait partie des choses auxquelles j'avais pensé aussi en écrivant le texte et qui sont... Encore une fois, qu'on peut ramener à quelque chose de plus global. Voilà, on éduque les filles à prendre soin des autres, à ne pas hésiter à se mettre en avant, à renoncer à leur propre confort, à devoir correspondre à des critères incroyables. Sandrine, en plus, alors je fais juste une petite incartade là-dessus, Sandrine, elle se trouve immonde, elle se trouve monstrueuse. Mais en fait, elle ne l'est pas tant que ça. Sandrine, c'est une jeune femme lambda, pas très sûre d'elle. Effectivement, on ne lui a pas fait des milliards de compliments, mais au fur et à mesure que vous allez avoir des portes d'entrée dans la vision des autres personnages, vous allez comprendre que la manière dont elle se voit est peut-être aussi quand même extrêmement cruelle. Et c'est cette cruauté-là qu'elle a fini par s'appliquer à elle-même qui va faire que le fait que cet homme la regarde et le fait qu'il l'aime, c'est quelque chose de tellement... On lui a tellement vendu ça. C'est tellement ça qu'il faut faire quand on est une femme. Genre, grandir, être belle, réussir et avoir un homme qui vous regarde et un homme qui vous aime, que ça prend tellement le pas sur tout que jamais elle s'est demandé si vraiment c'est ça qu'elle voulait. C'est ça qui allait la faire se sentir bien. C'est juste ça qu'il fallait. Et le jour où ça arrive, parce que ça n'arrivait plus, ça n'arrivait pas, c'était trop tard. Et c'est pareil, quand elle parle d'elle, des fois on a l'impression qu'elle a 45 ans, qu'elle est ménopausée, que sa vie est finie. Pas du tout, Sandrine, c'est une jeune femme ordinaire. Et du coup, elle est dans cette espèce de... C'est-à-dire que tout ce qu'elle dit dans les magazines féminins, ça la mine. C'est tous les trucs qu'on lit sur « vous êtes en forme de 8, vous habillez comme ça ». Attention, l'horloge biologique, c'est à partir de 32 ans. Toutes les contraintes, toutes les injonctions, elle les reçoit à 200%. C'est une éponge. Et une femme qui vivrait comme ça, en étant incapable, pour plein de raisons, je ne la mets pas en faute, mais de prendre du recul par rapport à tout ce qu'on lui dit d'être, c'est une femme qui serait intensément malheureuse et très en danger.
Voilà, et donc vous l'avez compris, ça va crescendo dans ce livre, donc les taux se referment petit à petit et la description du cycle qui se raccourcit est très très bien racontée dans cette emprise. Voilà, donc à conseiller, à mettre dans toutes les mains, y compris de vos grands ados. Voilà, et du coup on va passer à quelque chose de... un peu plus léger, parce qu'on peut parler de féminisme de façon plus légère et plus... mais c'est vrai, de façon plus légère et de façon plus, plus enjouée, mais quand même avec un fond très intéressant sur, sur les femmes. Donc c'est alors Benoît Philippon qui nous propose Joueuse. Alors Benoît, on l'avait, il y a beaucoup de gens qui ont lu son roman d'avant qui a été un best-seller, qui est devenu un best-seller, Mémé Luger, qui est un délicieux polar avec une centenaire absolument géniale qui, voilà, le livre commence, elle est en train de tirer sur des flics et sur ses voisins, elle va se retrouver en garde à vue et en flashback, elle va nous raconter sa vie absolument incroyable de, et son passage dans la résistance contre les nazis où elle va récupérer ce fameux Luger qui va revenir après. Et ce personnage de Mamie Luger, on le retrouvait dans le livre d'avant, elle apparaissait dans le premier roman, et elle revient là un petit peu aussi, à un moment donné, elle revient cette mamie absolument délicieuse. Mais là, pour ce livre-là, donc, on est dans l'univers de l'arnaque, du jeu, du poker, et l'héroïne de ce livre est Maxine. Alors là, pour le coup, enfin la façon dont tu nous l'as décrit, c'est une belle plante, Maxine, quand même, hein.
C'est une bombe.
Voilà. Ouais. Mais on peut être une bombe et féministe. Dis-nous pourquoi.
Ouais, mais complètement. Là, le roman, c'est marrant que tu dises qu'on peut s'amuser parce que il est réputé pour être noir, celui-là. Donc, mais Mamie Luger, c'est pareil. Mamie Luger était donc un best-seller et on me disait tout le temps qu'est-ce qu'on arrive. Parce que ce que tu as omis de dire, c'est que il y a 7 cadavres dans la cave de Berthe et que c'est Marie.
Je voulais te laisser annoncer le côté très, très féministe qui règle ses comptes.
Et c'est marrant parce que dans Luger et dans celui-là, en fait, alors celui-là, il y a aussi beaucoup d'humour, mais dans Luger, la gouaille de la grand-mère fait qu'on en ressort en disant qu'est-ce qu'on a rigolé. Moi, à chaque fois, je dis, mais putain, mais c'était pourtant tellement noir. Moi, j'avais la boule au ventre en écrivant, j'ai pleuré en écrivant certaines scènes parce qu'en fait, à chaque fois qu'elle les tue, elle les tue parce qu'on est dans la thématique de la violence conjugale et de toutes les formes de violence, en fait. Parce que l'idée dans Luger d'avoir les sept hommes, c'est qu'à chaque fois, ça représentait une des formes de la violence et de la domination. Donc tout ça pour dire que Joueuse, effectivement, Maxine, c'est une bombe. Joueuse, en fait, ça se passe dans l'univers du poker, mais c'est pas un film, c'est pas du tout un roman sur le poker. Moi-même, je ne sais pas jouer au poker. Je me suis engueulé par un libraire il y a pas longtemps. Il me dit vraiment, des scènes de poker, c'est n'importe quoi. Oui. et on s'en fout parce que c'est pas, c'est un peu comme un western. Et au lieu d'avoir des flingues, en fait, il y a des cartes. Et donc je joue. Comme beaucoup d'ailleurs sur mon premier roman sur Cabossé, je joue sur les apparences en fait. Donc les trois personnages principaux ont tous une apparence qui cache quelque chose de très différent dans leur personnalité. Maxine, c'est une bombe, donc on pourrait se dire je joue avec tous les clichés de la vente, la femme désirable et maîtresse de son corps et de l'influence qu'elle a sur les hommes, etc. Alors oui, elle maîtrise l'influence qu'elle a sur les hommes, mais en fait, elle le fait dans un but de vengeance, et de deux, à l'intérieur, elle est complètement fracturée et fracassée. Et en fait, les trois personnages, à chaque fois, sont dans cette thématique du coup du poker. Le poker m'intéressait par rapport au côté poker face, par rapport à ce qu'on montre, là où on bluffe, là où on montre, là où on fait genre, on a des cartes fortes alors qu'en fait on a des cartes faibles. C'est l'histoire de de leur dynamique et de cette vengeance, quoi. Et effectivement, du coup, j'ai voulu prendre ce décor parce que moi, je viens du cinéma, donc j'ai toujours un côté très cinématographique quand j'écris, et je voulais essayer de faire une sorte de presque de western moderne entre guillemets autour de cet univers un peu pulp et un peu poker, mais à chaque fois ces trois personnages ont une thématique commune qui est la thématique du viol et d'une certaine conscience ou inconscience justement du rapport de la domination et de la violence à la femme, et de voir comment ça se répondait pour voir aussi comment ils allaient se faire évoluer les uns et les autres, et notamment donc Maxine. En fait, elle utilise le poker et les cartes pour se venger des hommes. Donc elle va, parce que le milieu du jeu et du jeu clandestin est particulièrement masculin, particulièrement macho et misogyne. Donc elle utilise ça. Elle leur fait, en gros, elle leur colle des fessées, quoi. Donc au lieu de les punir à coups de flingue dans la tronche, elle utilise ça. Mais en fait, son idée est plus à une conséquence à plus long terme. C'est-à-dire qu'elle veut recruter des gens pour faire une partie pour se venger de d'une personne particulière qui forcément est plus liée à elle. Et ce qui m'amusait, c'était de, enfin, ce qui m'intéressait, c'était à chaque fois de jouer sur ces résonances thématiques. Donc, elle va rencontrer Zach, qui est un beau gosse, qui est censé être le gars charismatique à la George Clooney. Et pareil, en fait, il a un rapport à la séduction et à l'histoire d'amour avec les femmes qui est complètement abîmé. Il a un rapport. Lui, il est sex addict, mais il n'est pas violent. Il ne fait de tort à personne, sauf qu'en fait, à force d'être dans le bluff, bah, il finit par mentir à tout le monde. Donc, il se ment à lui-même. Donc, il est complètement déconnecté de ses émotions, ce qui est une vraie aussi thématique qui m'intéresse beaucoup dans la problématique du féminisme, c'est qu'on parle pas assez aussi de la. Enfin, on parle pas assez. Il y a une figure qui est vachement intéressante sur casser la figure du masculin et de la virilité, de ce que ça veut dire pour nous aussi les hommes dans notre éducation de ce qu'on nous envoie comme image et comme miroir de ce qu'il faut être en tant qu'homme. Et le troisième personnage qui est Balou, qui est donc partenaire de Zach, lui il est suicidaire parce qu'il a vécu un drame dans son enfance, donc il est suicidaire, il est en colère, il a beaucoup de haine contre lui-même. Et du coup, il reporte cette haine sur des prédateurs. En fait, donc lui, son truc, c'est sorte de justicier. Il se balade dans la rue la nuit du côté de Pigalle principalement, mais enfin un peu partout. Et dès qu'il va griller un début de tentative de viol, il y va, il défonce le gars. Donc c'est une sorte de justice en dehors de la loi. Mais à nouveau, parce que c'est un des sous-thèmes de Berthe, je plaide pas la vengeance autoproclamée, mais c'était aussi pour dire, on voit très bien que les punitions autour de tout ce qui est violence conjugale et viol, par la loi, c'est de l'ordre du ridicule. Donc, à travers ces figures un peu de genre, je propose une version un peu conte de comment on peut, non pas régler le problème, mais en tout cas l'aborder.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ce qui est attachant dans ces personnages, justement, c'est toutes leurs blessures et leurs fêlures, en fait, parce qu'ils ont l'air comme ça très forts, et Balou qui joue presque le super-héros. Et en fait, ils sont tous tellement fragiles, en fait. Ils ont tous des plaies béantes, et finalement, ils vont essayer de se réparer ensemble. Et ça fait un trio assez improbable, et en même temps, ça se lit comme... Moi, j'ai eu l'impression de lire un scénario de cinéma. C'est-à-dire que voilà, c'est pas un défaut, hein.
Bah non, c'est même assez cohérent.
C'est, ouais, complètement, parce que c'est très écrit comme pour le cinéma. C'est-à-dire que rien n'est donné pour rien. C'est, voilà, chaque personnage s'exprime et ils se répondent entre eux. Et petit à petit, la construction, elle est très visuelle entre eux aussi. C'est pour ça que je dis que ça parle de cinéma aussi, parce que moi, je me suis construit mon propre film et je les ai vus passer devant moi, en fait. Voilà, je les ai vus, en fait. Je pourrais les décrire, je pourrais les dessiner. C'est très, très fluide comme lecture, et puis ce lien qui se crée entre eux, il est presque visuel aussi, et ça c'est très agréable à lire, et c'était très très chouette, et ça donne du sens à leur histoire.
Merci. Oui, non, bah, moi j'écris vraiment mes romans comme mes scénarios, c'est-à-dire que l'idée c'est d'essayer de faire en sorte qu'au maximum la situation dise des choses que j'ai pas forcément besoin, que j'ai pas besoin d'expliciter
c'est ça,
derrière.
C'est ça.
J'essaie d'éviter, même si j'adore les dialogues et je me fais plaisir avec ça, mais plus la scène quelque part est symbolique, enfin pas symbolique, mais elle a ce sens, et c'est pour ça que j'utilise souvent la notion de conte. Moi j'ai une écriture qui est pas du tout ancrée dans le réel. Et j'utilise un peu les mêmes codes du conte, où je me dis, bah, si la situation a ce symbole qui fait qu'on peut la lire d'une façon qui fait comprendre des choses sans avoir besoin de stabilocher en disant, et donc vous voyez, c'est pour ça que c'est mal.
Voilà, et du coup, ça fait une lecture très fluide, mais très cinématographique. Et moi, j'ai pris beaucoup de plaisir parce que justement, c'est pour ça que je parlais peut-être d'humour et de légèreté, parce que justement, peut-être, c'est moins, on dit moins les choses, on écrit moins les choses, mais en fait, elles y sont. Et elles y sont parce que ces personnages, on a l'impression qu'ils existent vraiment. Quoi, qui sont là devant nous, quoi.
Ouais, mais oui, c'est ça. Et puis il y a un côté, il y a de l'humour dans la façon que moi j'aime bien jouer avec les juste comme je disais, les histoires du masque et le masque qui tombe. Par exemple, Balou, tel que je le décris, c'est un noir qui doit faire, qui fait 2 mètres sur 2, boxeur, vengeur, etc. Et puis finalement, il se prend d'affection pour un petit garçon de 7 ans qui lui en fait, sous ses airs de petit garçon de 7 ans, arrogant, c'est une tronche, il est surdoué. Et en fait, il passe son temps à analyser tout le monde et il lui fait sa psychanalyse pendant le roman et il en déduit qu'il a un problème d'horloge biologique et qu'il veut être maman, quoi. Sauf qu'il veut être papa. Mais en fait, à chaque fois, j'aime bien jouer sur des situations types et me dire qu'est-ce qui se passe si on renverse les rôles. Qu'est-ce qui se passe si à la place du chevalier, le chevalier servant et la veuve et l'orphelin, on inverse le système. Et là, c'est ce qui se passe aussi. Maxine, au début, on pense que c'est elle qui va être victime fragile et qui va avoir besoin d'eux. Et en fait,
c'est elle, le chevalier servant, finalement, de ces hommes-là qui sont finalement beaucoup plus fragiles qu'elle. Elle a une force absolument incroyable et elle va chercher au fond d'elle-même cette ressource pour cette vengeance qu'elle espère salvatrice, mais voilà, on va pas dévoiler la fin parce qu'il y a une fin qui est intéressante aussi là sur ce qui voilà.
Ouais, absolument. Et puis l'idée, c'est de nuancer aussi le discours, c'est-à-dire que c'est pas manichéen, elle n'est pas non plus, c'est pas non plus une super-héroïne, loin de là. Mais c'est juste dire parce que c'est très compliqué de d'écrire des personnages féminins dans des romans de genre comme ça, parce qu'on va tomber soit dans l'écueil du faire-valoir, soit de la bombe, mais c'est juste un peu à la Besson, quoi. Elle est bonne et elle est super badass et elle sait faire des trucs de fou et puis elle est infaillible. Dans les deux cas, en fait, c'est pas intéressant. Alors que dès qu'on commence à amener des aspérités, des nuances là-dedans, là, il commence à se passer quelque chose. Donc effectivement, moi, j'adore les personnages féminins très forts et très très moteurs et très, mais aussi de décrire tout ce qu'il y a sous l'armure, quoi.
Mais justement, c'est dans ce texte, c'est aussi la fragilité des hommes en général, qu'ils soient des hommes ou des femmes. C'est ça aussi qui est chouette.
Ah oui, mais je prône énormément tous mes personnages masculins sont toujours, enfin ceux qui m'intéressent, ceux que je soutiens dans le roman, ils ont toujours une part émotionnelle et sensible vachement importante.
Ah mais c'est, oui.
Et pour moi, la sensibilité chez l'homme, c'est un sujet ultra important qui est souvent cet amalgame de la sensibilité, dire ses émotions, etc. On va faire l'amalgame avec l'homosexualité. Et ce qui fait que les hommes réagissent de façon très conne, parce qu'on veut surtout pas être homosexuel, donc on cache tout et on est viril et un homme ne pleure pas, etc. C'est cliché de dire ça, mais en fait, quand on commence à creuser un peu le sujet, il y a un problème sociétal qui est très fort, et on le voit, alors sans aller sur les mecs qui vont taper sur la gueule de leur femme, mais dans la plupart des couples, on va toujours avoir la femme qui va dire c'est con, il parle pas, je voudrais qu'il m'exprime ses émotions, je voudrais qu'il m'exprime, mais il parle pas, c'est un mur. Et ça, on l'entend tout le temps. Et moi, j'aime bien jouer dans cette idée de casser un peu cette figure de l'homme viril et de l'homme qui ne s'exprime pas. Alors, il va des fois mettre plus de temps à s'exprimer, mais de jouer sur la sensibilité et l'émotion, et de montrer à quel point c'est en fait c'est la plus belle des qualités, la plus belle des vertus chez l'homme, chez l'humain en général, mais chez l'homme. Et plus il fait genre il est inébranlable, Cabossé, c'est la version encore plus ultime, parce que Cabossé, c'est vraiment une machine, c'est une bête, etc. Et il dit, mais moi j'ai un petit cœur qui bat et qui est tout fragile, et j'ai construit un bunker en béton autour parce que pour pas qu'il se fasse pilonner par la désillusion. Mais c'est vraiment, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de montrer ça, c'est de systématiquement enlever l'armure, quoi, et de dire qu'est-ce qu'il y a en dessous. Et c'est souvent intéressant parce qu'on cache tous des failles et des sensibilités. Et c'est intéressant de mettre les cartes sur table à un moment.
Ouais. Et le point commun de ces romans, c'est que, c'est ce qu'a dit Jean-Christophe tout à l'heure, c'est que la part importante, elle est à l'éducation. À l'éducation des enfants et montrer l'exemple et aussi que voilà aujourd'hui ça se joue aussi voilà chez les petits, chez les moyens et chez les grands. On a rencontré il dit ça parce que hier il a rencontré des élèves au collège et que c'est vrai que les jeunes aujourd'hui ils ont envie d'être libres, d'être indépendants, etc. Mais ils sont aussi corsetés dans ce que leur famille leur envoie, la société leur envoie, l'école leur envoie. Et voilà, et je crois qu'on doit être tous acteurs de ce changement, si on veut qu'il y ait changement, si on veut que chacun trouve sa place en tant qu'humain, qu'on soit un homme, une femme, peu importe. Mais ce qui est important, c'est voilà, cette humanité qui aujourd'hui fait cruellement défaut parfois. Et voilà, vous ne pouvez pas être sinistre sur la fin, parce que je crois qu'il faut qu'on libère la salle. Et voilà, mais je voulais finir là-dessus, parce que la responsabilité, elle est de chacun, dans l'éducation, dans le monde qu'on veut demain. Et que, voilà, sans être moralisatrice, mais je pense que c'est important de le dire. Et que nos enfants, ils ont besoin qu'on les écoute, mais qu'on les guide aussi. Voilà. Donc, vous pouvez retrouver nos auteurs sur le stand, les livres à la librairie, que je ne saurais trop que vous conseiller. Merci beaucoup pour votre écoute et votre participation. Merci à nos auteurs.